Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Raison gardée sur votre radio RCN. Aujourd'hui, nous allons parler du planning familial, nous allons parler un petit peu de manière historique et puis surtout nous allons nous interroger sur la situation à Nancy. Et j'accueille aujourd'hui avec plaisir Arlette. Bonjour Arlette.
Bonjour.
Arlette Alvaringa. Est-ce que je peux te laisser te présenter, Arlette?
Oui, très brièvement. Écoute, je suis une militante depuis toujours, depuis l'âge de mes 20 ans, je milite. Parce que je ne supporte pas l'injustice, les discriminations, les inégalités. Donc je milite pour une union populaire à la base. Une union populaire à la base citoyenne avec un projet politique. Et le projet politique de départ pourrait être celui de la NUPES qui mériterait d'être complété et enrichi par les citoyens.
La NUPES, donc on rappelle la nouvelle union populaire écologique et sociale. Et aujourd'hui, je t'ai invitée sur l'antenne parce que tu as soulevé une question qui était passée sous mes radars. Moi, par exemple, c'est la question du planning familial à Nancy. Et tu envisages, tu portes un projet dont on pourra discuter dans quelques minutes. Alors justement, peut-être pour bien poser les choses, il peut être intéressant de rappeler ce que sont les plannings familiaux et d'où ils viennent en fait, hein, comment ils ont été créés. Et pour cela, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps et qu'on remonte à une époque où était en vigueur une loi de 1920 qui condamnait et quiconque aurait, et là je cite la loi, décrit ou divulgué ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse ou encore de faciliter l'usage de ces procédés. Autrement dit, c'était une loi qui interdisait toute information et toute assistance concernant la contraception. Et cette loi, qui était toujours en vigueur dans les années 50, va être combattue, et notamment par des personnes. Alors je crois qu'au début, il y a une vingtaine de personnes qui avaient créé, c'était en mars 1956, une association qui ne s'appelait pas encore le planning familial, mais qui s'appelait la Maternité Heureuse.
Oui, tout à fait.
Alors, j'ai été un peu étonnée, moi, par cette appellation de maternité heureuse. Et en fait, donc en plongeant un petit peu dans quelques articles qui racontent la création de cette association, j'ai compris qu'en fait, l'idée, c'était déjà d'abord de sortir un petit peu d'une conception à la fois du couple, du mariage et de la procréation, et que l'idée était de porter un projet de famille véritablement, enfin d'aider à accompagner les personnes vers un projet de famille vraiment choisi, quoi, pensé.
Oui, moi je dirais que plus que la famille, c'était surtout que les femmes puissent choisir la maternité quand elles le souhaitaient, pour en être heureuses, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les avortements se faisaient de façon horrible, et que les femmes n'avaient aucun choix. Et donc c'était surtout centré sur la femme, et bien sûr la famille, mais surtout sur la femme.
Oui, je disais à la famille parce que, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, au tout début il y a eu beaucoup d'hésitations sur le rapport aux mineurs notamment, parce qu'il y avait un cadre légal quand même extrêmement contraignant, et qu'il y a eu des discussions au sein de cette association de la Maternité Heureuse pour savoir effectivement comment on s'adressait, enfin s'il fallait s'adresser ou pas aux mineurs, ou s'il ne fallait s'adresser qu'à ceux qui aux yeux de la loi pouvaient être en couple en fait, hein, pouvaient avoir une sexualité. En gros, c'était ça, puisqu'il n'y avait pas encore vraiment de différence entre une majorité sexuelle et une majorité légale.
Il y avait Oui, mais le planning a toujours écouté, a toujours reçu des mineurs si elles souhaitaient venir se parler au planning.
Oui, oui. Alors, on peut peut-être rappeler que ce que tu disais effectivement, que l'idée était quand même d'aider les femmes à s'émanciper et à se libérer. À l'initiative, on va quand même les nommer, de cette maternité heureuse, il y avait Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allier, qui était gynécologue, mariée à un pédiatre, et Evelyne Sulraud, qui était, elle, une mère au foyer, comme on disait.
Une sociologue, Evelyne Sulraud.
Elle est présentée, dans pas mal d'articles, elle est présentée comme mère au foyer. En disant qu'elle était, j'ai trouvé qu'elle était très politisée, etc. Mais je n'ai pas trouvé toujours la mention de son métier. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on occulte les études et les fonctions de femmes importantes. L'association, dès son début, lutte en faveur de la contraception, qu'elle présente justement comme le seul remède, puis la pédagogie, hein, l'éducation populaire, etc., qu'elle voit ça comme le seul remède contre l'avortement, qui est donc complètement illégal. Et cette association évoluera vers le MFPF, qu'on appelle donc de façon plus courte le planning familial. Ce groupe de femmes est assez vite rejoint aussi par des hommes et notamment des médecins, dont le docteur Henri Fabre, qui, si je ne me trompe pas, tu vas me redire Arlette, a fondé le tout premier vraiment centre du planning familial à Grenoble. Je crois que c'est là que...
Oui, tout à fait.
Que les choses se sont faites. Et puis l'association s'associe à une association internationale, une fédération internationale. C'est là qu'elle change de nom pour s'appeler le mouvement français du planning familial. Et elle œuvre, alors ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une association qui à la fois est tout à fait officielle et donc légale, mais dans le cadre de la loi de l'époque, elle œuvre de façon illégale en fait, puisqu'elle procure des moyens contraceptifs.
Oui, on faisait venir de Suisse. On faisait venir de Suisse des moyens contraceptifs dont on faisait profiter les femmes qui le souhaitaient.
D'accord. Donc il y avait déjà des réseaux d'entraide en fait, de solidarité avec la Suisse. La Suisse était déjà plus libérale sur cette question-là.
Je sais que moi j'en avais bénéficié à Toulouse avec mes amis. On faisait venir des diaphragmes de Suisse par le biais du planning familial.
D'accord.
On n'avait aucun moyen de contraception, il n'y en avait aucun, il n'y avait que la méthodologie avec laquelle toutes les femmes tombaient enceintes.
Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une fameuse baby boom, mais on a un peu peut-être une vision un peu faussée, on a peut-être l'impression que les gens faisaient plein de bébés parce qu'ils étaient très heureux de pouvoir revivre, mais en fait, non, il faut bien rappeler qu'effectivement, il n'y a pas d'information. Et d'ailleurs, c'est ce que disent... J'ai lu quelques rapports de l'époque sur le bilan qui était tiré des échanges avec les jeunes femmes qui venaient au planning, les couples aussi qui venaient pour être informés. Et ce qui était assez frappant, c'était vraiment la désinformation complète ou l'absence d'information. Et puis la difficulté du dialogue en fait entre les hommes et les femmes sur cette question de la sexualité et de la contraception que des médecins pointait assez souvent en signalant à quel point il était difficile de dialoguer même au sein d'un couple.
Et même avec les médecins, parce que les médecins n'étaient absolument pas fermés à la contraception. Même dans les années 75 à Nancy, quand on a créé le planning familial à Nancy, moi j'ai fait la tournée de plein de médecins avec dans mon sac un petit stérilet que les médecins ne connaissaient pas du tout et qui me demandaient de leur expliquer comment fonctionnait le stérilet par exemple.
Et comment, parce qu'il y a quand même des médecins qui se sont investis vraiment pour cette cause. Donc il y avait une résistance au sein de la formation, enfin pour la formation même des médecins, il y avait une résistance forte.
Bien sûr. La formation des médecins était complètement en lien avec la politique de santé des gouvernements en place.
Très conservateur donc sur ce sujet, manifestement.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, ce qui heurtait à la fois la morale et puis les hommes politiques, parce qu'on va dire quand même la politique était faite très majoritairement par les hommes, c'était de dissocier la sexualité de la procréation.
Pour freiner la liberté des femmes, parce que pour eux, si vraiment la liberté de procréation était libre, c'était la licence sexuelle ouverte aux femmes.
Mais dans un article que j'ai lu sur le planning familial, la personne, j'ai retrouvé son nom, je vais la citer, c'est un article qui date de 2002 de Marie-Françoise Lévy. Elle ouvre son article en faisant le parallèle avec l'accueil du film de Vadim et Dieu créa la femme, en citant quelques critiques de ce film et en disant que c'était vraiment des critiques qui révélaient à quel point on ne voulait pas voir les femmes se libérer, on ne voulait pas entendre parler de leur émancipation et de la liberté, la liberté sexuelle des femmes en particulier.
Bien sûr, bien sûr. Et le tournant a été pris avec la loi Veil, essentiellement.
Le dilemme aussi, de ce que j'ai lu, pour les personnes qui ont fondé la maternité heureuse puis le planning familial, c'était de dire que l'intérêt, qu'il y avait un intérêt immédiat et individuel de la femme qu'il fallait entendre, mais en même temps, il fallait qu'ils aient un discours pour montrer que ce n'était pas contre l'intérêt national, parce que l'opposition au projet de modification de cette loi de 1920, donc qui pénalisait ceux qui, et même qui criminalisait presque, hein, celles qui pratiquaient l'avortement, c'est surtout des femmes, étaient bien sûr criminalisées, mais il y avait donc tout un délit autour même du discours sur la contraception, et on sent qu'il leur fallait, pour pouvoir faire entendre la cause des femmes, expliquer qu'on ne mettait pas en danger l'intérêt national. Ça paraît quand même assez étonnant peut-être pour des gens, pour nos auditeurs et nos auditrices aujourd'hui, de se dire qu'on voyait un danger national à parler de contraception aux femmes et de les libérer sexuellement.
Ben oui, c'était une époque où il y avait effectivement une volonté de développer la natalité en France, donc il fallait bien montrer que ça allait dans ce sens-là. Il n'y avait pas de contradiction avec la politique natale de la France à l'époque.
Alors finalement, la première grande étape, c'est la loi Neuwirth en 1967.
Oui, qui a libéralisé la contraception.
Donc c'est déjà une avancée quand même très 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 importante. Oui, je le disais tout à l'heure, la réflexion qui ensuite continue à courir dans le mouvement du planning familial, c'est la contraception pour les personnes qui sont mineures. Et effectivement, là aussi, j'ai lu dans un article que les médecins trouvaient la parade en prescrivant des contraceptifs, en indiquant qu'il y avait une indication médicale qui rendait nécessaire telle ou telle forme de contraception, quoi, pour essayer de contourner un peu le cadre légal. Alors aujourd'hui, le planning familial, ça représente plusieurs dizaines de fédérations, je crois que j'ai vu 70 et quelques.
Il y a 70 associations, ce sont d'abord les associations qui sont regroupées en fédérations régionales et ensuite en confédérations nationales.
D'accord.
Il y a 9 fédérations régionales.
Et comment fonctionnent ces associations? Comment, parce qu'on sait bien que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, comment peuvent-elles fonctionner? Donc l'association fonctionne avec des bénévoles, il peut y avoir aussi quelques salariés pour le bon fonctionnement de l'association. Aujourd'hui, comment cela s'organise-t-il? Comment les associations peuvent-elles vivre?
Mais elles vivent comme toutes les associations des subventions versées effectivement par les collectivités, par l'État, etc. Par des dons et par aussi des cotisations pour les personnes qui adhèrent au planning. C'est le même fonctionnement que les associations en général.
Alors j'ai regardé, je ne sais plus pour quel département, j'ai été impressionnée, les rapports d'activité sont en ligne par exemple, hein, ou les rapports des assemblées générales sont en ligne à partir du site du planning familial, et j'ai été impressionnée parfois par le nombre d'institutions, d'organismes qui sont nécessaires pour faire fonctionner, je ne sais plus pour un seul planning familial, je ne sais plus dans quel département, il y avait au moins 30 entre entre la région, les départements, des communes, des communautés de communes, des fondations. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Si il faut que les gens de l'association passent leur temps déjà à monter des dossiers pour trouver des subventions partout, ça pose quand même un problème peut-être aussi.
Je crois qu'il faut clarifier les choses parce que il faut faire attention dans l'appellation planning familial. Ce qu'on appelle le planning familial à Nancy, ce n'est pas le mouvement français pour le planning familial. Hein, ce sont des structures qui se sont montées dans les CHU, qui se sont montées avec l'appui de l'ARS, avec l'appui de l'État, avec l'appui de la politique publique. Donc il y a des tas de structures qui se sont mises en place, qui font un travail intéressant, hein, qui comportent surtout en leur sein des personnels de santé, comme des médecins, des assistantes sociales, etc. Et donc, quand on dit planning familial tout seul, il ne s'agit pas du mouvement français pour le planning familial. Le planning familial est complètement autonome, indépendant, politiquement et institutionnellement. Mais n'empêche qu'il fait des partenariats, puisque dans le planning familial, il n'y a pas on ne fait pas de l'activité médicale du service médical direct. La prise en charge médicale se fait dans les plannings familiales au CHU ou dans les différentes structures. Donc le planning familial, par son intersectionnalité, travaille avec les structures qui s'occupent de contraception, de planning familial, d'éducation sexuelle, etc., officielle, institutionnelle ou même associative, en orientant, après avoir écouté et conseillé les personnes qu'il reçoit, vers les services faits par ces structures. Et donc, il faut bien faire attention de dire MFPF et pas planning familial tout seul.
D'accord. Oui, parce qu'il y a aussi, alors peut-être que cette distinction, c'est celle entre le MFPF et le CPEF, c'est ça?
Oui, le PPEF, donc, si tu veux qu'il a changé un petit peu de nom, parce qu'il y a dans tous les CHU, il y a une structure de planification, une structure de planification qui est devenue maintenant une structure qui ne s'appelle plus, qui a changé de nom récemment, qui s'appelle des centres de santé sexuelle. Voilà. Hein, il s'appelle centre de santé sexuelle. Et donc, qui par exemple prennent en charge médicalement l'avortement. Des conseils à la et tout ce qui est la médicalisation de la sexualité par rapport aux problèmes de santé ou d'impuissance ou autre rencontrés par les gens qui ont besoin d'une consultation médicale.
D'accord. Donc là, il y a du personnel médical, il y a des gestes médicaux qui peuvent être faits dans ces centres de santé sexuelle. Donc ils ne sont...
Les gestes médicaux sont faits là essentiellement. Et par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, mais en sachant que pourquoi le planning familial est utile, c'est qu'il y a des limites à ces pratiques. Évidemment, ces centres sont dépendants de la politique du gouvernement, la politique de santé des hôpitaux, puisque ça se passe dans les CHU, avec les limites que l'on connaît, et surtout avec la clause de conscience accordée aux médecins, y compris les services publics dans les CHU, par rapport à l'avortement. Et donc, on a besoin de structures comme le planning familial pour mener une lutte politique par rapport à ces limites.
D'accord. Donc, ce mouvement, cette association donc, on dit, il faut dire MFPF, pour être bien au clair. Voilà, d'accord.
Ou alors, on dit association du planning familial.
D'accord.
Si on ne veut pas dire MFPF, parce que le planning familial des CHRU ne sont pas des associations, ce sont des structures intégrées au système de santé.
Donc il n'y a jamais de centre de santé sexuelle, les anciens CPEF, gérés en même temps par l'association du planning familial. Ce sont vraiment deux choses différentes.
Non. Par contre, effectivement, là, il y a une différence de structure. Il y a une différence de structure et de tutelle, en quelque sorte. Parce que l'un, c'est la tutelle officielle de l'État et l'autre, c'est une tutelle associative indépendante. Mais il faut aussi parler des EVARS. Parce que c'est compliqué, il y a plein de choses qui ont fleuri partout, tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des prises en charge aussi, hein, par rapport aux personnes. Les EVARS, qui sont des espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sont des lieux d'information, d'écoute, de sensibilisation et de prévention de, par rapport à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et ces espaces-là sont pris en charge par différentes associations, dont le planning familial. Donc ce sont des lieux associatifs qui peuvent être pris en charge par différentes associations suivant les richesses locales du tissu associatif. Et dans de nombreux départements, là, le planning familial gère ces EVARS. Mais souvent, il ne les gère pas seul, il les gère en partenariat avec d'autres associations qui ont aussi ces objectifs de sensibilisation à la vie sexuelle, affective et relationnelle.
D'accord. Alors, avant de parler de la situation à Nancy, si on récapitule donc les objectifs, mais aussi les modes d'intervention de l'association du planning familial, donc elle défend le droit à la conception, à la contraception, pardon, à l'avortement, l'éducation à la sexualité. Elle combat aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit apparaître très clairement, toutes les formes de violence. Elle contribue aussi à la lutte contre toutes les maladies sexuellement transmissibles.
On peut le résumer à partir de la charte. Je pense que si on lit la charte du planning familial, qui rappelle ce que tu dis, mais peut-être d'une façon un peu plus précise et plus large. Hein, par exemple, donc, le planning familial lutte pour la liberté et l'égalité pour toutes et tous, hein, c'est-à-dire l'égalité des droits et des accès aux droits, respect de la liberté des choix, lutte contre les discriminations et les stéréotypes, notamment toute forme de racisme, sexisme, homophobie, islamophobie, etc. C'est un mouvement féministe qui aborde la société sous l'angle de l'analyse genrée, ça c'est très important, qui permet de déconstruire les représentations du masculin et du féminin et les rôles assignés aux femmes et aux hommes. Ça veut dire qu'elle lutte contre toutes les formes de violence qui découlent des rapports de domination, pour améliorer les droits des femmes localement, nationalement et, comme tu disais tout à l'heure, internationalement. Donc c'est aussi un mouvement d'éducation populaire qui favorise l'accès à l'information pour toutes et tous, tout au long de la vie. Mouvement d'éducation populaire et aussi l'éducation sexualisée, comme tu disais tout à l'heure, qui pour permettre l'accès sans préjugés ni jugement de chacun à tous les âges pour une sexualité épanouie, pour disposer librement de son corps, pour défendre une approche positive par les droits de la santé sexuelle, l'accès à une contraception choisie, etc. Et donc, c'est ce projet associatif, on le voit bien. Et donc, par rapport aux dernières orientations politiques du Congrès de l'année dernière du planning familial, une insistance particulière sur certains publics, comme les migrants, les handicapés, qui effectivement sont les points faibles de la prise en charge de beaucoup d'organisations à l'heure actuelle. Et donc, c'est ce qui caractérise le planning, c'est vraiment à la fois son indépendance politique, mais son intersectionnalité. Et qu'il aura le partenaire de beaucoup d'organismes qui s'occupent soit de tel ou tel public, de tel ou tel aspect, et le planning fait un petit peu la coordination de tout ça.
Et donc, à Nancy, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de planning familial.
Alors, il y en a eu... Il y en a eu un ?
Oui, il y en a eu un, puisque je me rappelle, au moment de la loi Veil en 1975, le planning familial existait déjà en Nancy, puisque moi je militais au MLAG, au mouvement pour la libération de l'avortement et de la sexualité, de la contraception. Et on avait tous quitté le MLAC, on avait dissous le MLAC à Nancy pour adhérer au planning qui marchait très bien, il ne m'a pas dans très longtemps. J'ai milité au planning familial à Nancy. Donc il n'y avait pas une activité aussi développée qu'à l'heure actuelle parce que la société a évolué par rapport au genre, par rapport aux minorités sexuelles, etc. Mais qui déjà faisait un travail extraordinaire sur Nancy. Alors le planning n'existe plus, moi je m'en suis aperçue l'année dernière. Je ne sais pas, j'ai fait le lien avec la coordination nationale des associations départementales, qui m'a dit qu'il ne savait pas trop depuis combien de temps il n'y avait plus de planning. Alors on ne sait même pas s'il a été dissous ou s'il ne fonctionne plus. Et donc on a fait le projet effectivement de faire revivre avec le national, de faire revivre un planning à Nancy. D'accord. En sachant qu'il n'y a pas de planning dans les Vosges et dans la Meuse non plus.
Oui, j'ai vu, il y a Metz. Le plus proche,
c'est Metz. Metz, mais bon, qui n'a pas des forces extraordinaires. J'ai fait le lien avec Metz. Et on doit se rencontrer. Mais par contre, il y a trois associations de planning à Nazareth.
D'accord, mais c'est quand même incroyable qu'on ne sache pas, Nancy, identifier le moment où le planning a cessé ses activités. Et donc, tu travailles à ce projet. Quelle est ta démarche pour voir si...
Écoute, elle est tout à fait au début. Hein, on est dans le préliminaire. J'ai d'abord essayé de constituer des personnes qui seraient sensibles à ce projet. Et j'arrive à l'heure actuelle, on a 12 personnes qui se disent intéressées, prêtes à travailler à l'élaboration du projet. On a fait une première réunion la semaine dernière, mais bon, il y avait très peu de participants parce que j'ai du mal à trouver un agenda commun. Mais l'idée de base, c'est qu'on va commencer par faire un état des lieux local. Parce qu'il y a des EVARS, il y a le centre de planification, il y a des tas de choses qui existent localement. Des associations qui prennent en charge, comme nous toutes, les violences faites aux femmes, d'autres associations qui s'occupent des minorités. Il y a Médecins du Monde aussi qui fait un travail remarquable localement. Donc on va commencer par prendre contact avec ces associations, faire un petit peu un état des lieux, pour voir quels seraient les besoins prioritaires à Nancy. Puisque le planning a une planète très large et qu'on n'est pas obligé de mener toutes les activités par rapport à cette palette. En fonction des besoins locaux et en fonction de nos moyens, on peut choisir de commencer par certaines activités. On est dans cette phase préliminaire d'état des lieux et de réflexion.
D'accord. Donc, on peut imaginer que les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intéressés, qui peuvent apporter des informations, qui peuvent contribuer déjà à cette première étape d'un état des lieux local, peuvent, je redonne peut-être l'adresse mail de la Libre Pensée et je ferai le relais, à moins que tu aies déjà une adresse que tu puisses nous communiquer, une adresse mail.
Oui, on a décidé d'une adresse de contact. Une adresse de contact qui est
mfpf54@orange.fr. D'accord, mfpf54@orange.fr. Bah, parfait, comme ça, ceux qui veulent soit donner des informations, soit entrer dans ce groupe de travail pourront le faire directement par cette adresse. Donc c'est un travail qui commence, qui va demander du temps pour pouvoir bien penser justement faire cet état des lieux, puis après réfléchir aux besoins et aux relations qui peuvent se tisser entre les autres associations, les autres organismes qui peuvent exister.
Voilà, nous sommes aidés par le national et nous serons aidés aussi une fois qu'on aura stabilisé notre projet, c'est-à-dire voilà, quels besoins on peut couvrir avec nos moyens et au vu de l'état des lieux local, par la fédération aussi de l'Est, la fédération régionale. Et donc on va avoir tout un appui et puis aussi une formation pour les personnes qui voudront s'engager de façon durable.
D'accord. Bien, je te remercie beaucoup, Arlette, pour toutes ces informations sur ce projet qui est important. Je te remercie d'avoir été avec nous.
Merci à toi et à la Libre Pensée de vous pencher sur ce problème qui est très important.
Oui, et fondamental. Merci encore, Arlette. Je répète à nouveau l'adresse que tu as donnée, mfpf54@orange.fr. Et nous allons nous quitter avec quelques notes d'une chanson qui est un hymne bien connu maintenant, qui est une chanson qu'on adore, l'hymne des femmes. Merci encore, Arlette. À très bientôt. Au revoir.
Merci à toi. À bientôt. Au revoir.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous qui n'avons plus d'espoir, levons-nous femmes en rage et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées. Les femmes achetées, vendues, violées dans toutes les maisons. levons-nous, femmes en rage, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes en rage, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissant notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes en rage, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes en rage, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes en rage, et jouissons sans entrave. Debout, debout,